RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior de España.
Quels sont vos plans pour cet été? Saviez-vous qu'il y a des formations d'été pour des jeunes professionnels qui veulent agrandir leur connaissance de la géopolitique européenne? Aujourd'hui, nous allons découvrir le Centre international de formation européenne, une institution cofinancée par l'Union européenne qui contribue à l'enseignement des valeurs de notre continent et de notre Union, des principaux sujets de l'agenda de l'Union européenne et des défis auxquels devra faire face celle-ci dans les prochaines années. Marie-France Perdigon est la coordinatrice des programmes d'été.
Alors, ce sont effectivement essentiellement des étudiants, mais pas que. Nous acceptons également des jeunes professionnels qui veulent parfaire une formation pour développer certaines thématiques dans leur métier. Donc ceux-là suivent les cours, par exemple, en formation professionnelle pour ce qui est des programmes de master, ou bien à titre informatif pour les programmes d'été. Les jeunes professionnels sont acceptés de toute façon dans tous nos programmes, même si ce n'est pas la majorité.
Restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter l'interview complète avec Madame Perdigon.
Vous écoutez la musique de Ota, ceci s'appelle One of the Girls, à la technique Rodrigo López, et au micro et dans vos oreilles Inés Azagra et Guillermo Bravo, et à la production Cristina Dorado.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure, Espagne.
Nous commençons en Espagne car le président de l'Assemblée régionale de Catalogne, Pere Aragonès, était lundi à Madrid pour son intervention devant le Sénat, la chambre territoriale du Parlement espagnol.
Aragonès a abordé plusieurs sujets différents pendant cette intervention qu'il a réalisée intégralement en catalan. Cependant, c'était l'affaire de l'amnistie qui était au cœur de son discours.
L'amnistia és un pas necessari, però no és l'últim. Deixant enrere la repressió, obrim una nova etapa de negociació amb el govern de l'Estat espanyol.
Le président de la Generalitat a encore une fois demandé une plus grande liberté et davantage de prérogatives pour l'administration catalane. Il affirme qu'il faut commencer par la construction d'une relation bilatérale entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. Aragonès a dit que le référendum d'indépendance arrivera un jour et il a identifié une volonté démocratique majoritaire en Catalogne.
Catalunya ha de tenir un sistema de finançament propi que en jugui a favor. Un sistema de finançament singular.
Pere Aragonès a aussi parlé d'argent. La politique fiscale et la compétence pour la gérer est une des principales demandes des Catalans. Sur ceci, le président a demandé à ce que la région puisse contrôler les impôts payés dans son territoire et contrôler aussi la fiscalité de tout ce qui est produit dans son intérieur.
Ens diran de nou que és impossible, que és inconstitucional. Però també era inconstitucional l'amnistia, fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió.
Aragonès déclare que la Catalogne ne considère rien comme impossible et il a mis l'exemple de l'amnistie qui était supposée être inconstitutionnelle et finalement, elle a été possible. Naufrage au Mozambique, le bilan passe à plus de 90 morts après le communiqué des autorités locales.
Le bilan au naufrage d'un bateau de pêche dimanche au large du Mozambique, qui transportait 130 personnes et montait à 96 morts, ont indiqué lundi à l'AFP les autorités locales.
Le Nicaragua a critiqué l'Allemagne devant la plus haute juridiction de l'ONU pour son soutien à l'Israël, jugeant de pathétique de donner des armes au gouvernement israélien tout en fournissant simultanément de l'aide à Gaza.
Les avocats du Nicaragua ont soutenu que l'Allemagne viole la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948, établie à la suite de l'Holocauste, en fournissant des armes à l'Israël. L'Allemagne répondra devant un cours pendant la journée d'aujourd'hui, mais a déjà fermement rejeté les accusations. Le Nicaragua a affirmé que l'Allemagne ne pouvait pas ignorer les souffrances à Gaza, mais a néanmoins fourni un soutien militaire à l'Israël. Dans un document de 43 pages adressé à la Cour, Managua affirme que Berlin viole la Convention des Nations Unies sur le génocide, qu'on vient de citer, de 1948, établie à la suite de l'Holocauste.
Serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of international law, including genocide, are taking place in Palestine. Germany has violated these obligations imposed on all states.
L'Allemagne ne semble pas être capable de faire face à la différence ou de faire la différence entre légitime défense et génocide. L'Allemagne viole les droits de la population de Palestine, a déclaré à la Cour l'ambassadeur du Nicaragua aux Pays-Bas, Carlos José Arguello Gómez.
Dénoncer l'avortement et la théorie du genre tout en défendant les droits des migrants et des personnes LGBT+, le Vatican a publié lundi un nouveau texte consacré au respect de la dignité humaine après 5 ans de travail.
Baptisé Dignitas Infinita, une dignité infinie, ce document d'une vingtaine de pages approuvé par le pape François peut être lu comme une manière de colmater les divisions internes au sein de l'Église 4 mois après la polémique suscitée par l'ouverture des bénédictions des couples homosexuels, notamment dans le camp conservateur de l'Église. La gestation pour autrui y est décrite comme en contradiction totale avec la dignité fondamentale de tout être humain.
Al riguardo ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico pertanto un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica.
De l'autre côté de l'Atlantique, chacun a ses propres raisons de lever les yeux vers le ciel lundi pour voir la lune occulter le soleil.
The final countdown to the solar eclipse. Millions of people traveling across North America to be in the path of...
Des millions de personnes se sont rassemblées pour admirer une éclipse totale en Amérique. Elle a commencé au Mexique, a traversé les États-Unis jusqu'au Canada. Des millions d'habitants ont admiré lundi une rare éclipse totale.
Dans le sport, ce samedi se tenait la finale de la Copa del Rey entre l'Athletic de Bilbao et le Majorque à Séville, dans le stade de la Cartuja. Finalement, ce sont les Lions qui l'ont remporté.
Après 120 minutes de jeu et plusieurs pénaltys, l'Athletic de Bilbao a remporté la Copa del Rey. Après un score de 1 partout dans les 90 minutes et sans aucun but dans la prolongation, les Lions ont remporté dans les pénaltys le premier grand titre depuis 1984. 40 ans sans pouvoir célébrer, beaucoup trop longtemps sans doute, c'était la première fois que beaucoup de supporters voyaient leur équipe célébrer ce titre-là. Ernesto Valverde est le directeur technique des Lions.
Y este pues supone algo especial sobre todo por el tiempo que llevamos persiguiéndolo, por el tiempo que las finales que hemos perdido.
Les Basques célèbrent leur trophée à bord de la Rabarra, une barque utilisée normalement pour remorquer d'autres bateaux dans les zones portuaires, comme c'est le cas de Bilbao. C'est une tradition de l'équipe basque, mais celle-ci devra attendre jusqu'à jeudi, car il faut terminer la préparation et ses éventuelles réparations. Nous commençons une semaine de football international avec le retour de la Ligue des Champions, d'Europa League et la Conference League.
Plusieurs équipes espagnoles chercheront la victoire. La première sera le Real Madrid qui reçoit le Manchester City de Guardiola mardi dans le Bernabéu. Les Blancs chercheront de prendre leur revanche de l'année dernière lorsqu'ils ont été éliminés par les Britanniques. Mercredi, ce sera le tour de l'Atlético et du Barcelone. Les Colchoneros reçoivent le Borussia Dortmund au Wanda Metropolitano et le Barça visite la France pour faire face au Paris Saint-Germain dans un duel dans lequel les Parisiens ont promis intense, encore avec le souvenir de ce fameux 6-1 il y a plusieurs années.
L'émission en français, l'actualité du monde hispanophone en langue française.
Je suis avec Marie-France Perdigon, c'est la directrice du programme d'été du CIFE, le Centre international de formation européenne, un centre très particulier qui offre plusieurs programmes aussi bien d'été que de plus longue durée aux jeunes qui veulent s'instruire dans les affaires qui intéressent à l'Europe, à l'Union européenne et aux pays qui l'intègrent de nos jours. Bonjour Marie-France, comment allez-vous ?
Bonjour Guillermo, c'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Ça va bien après toutes ces années. Je suis ravie de prendre la parole à votre antenne.
Super, ben, on est très content que vous puissiez le faire. Et on voulait commencer par, on voulait découvrir le CIFE aux jeunes espagnols et aux jeunes d'autres nationalités qui nous écoutent. Et pour cela, il faudrait commencer par décrire qu'est-ce que c'est que le CIFE au-delà de ce que j'ai raconté au début.
Oui, c'était déjà bien ce que vous avez donné, c'était excellent. Donc le CIFE, ça veut dire Centre international de formation européenne. C'est une organisation internationale privée d'enseignement supérieur et de recherche et nous avons été fondés en 1954 avec le soutien de l'Union européenne dans le but, comme vous l'avez dit, de développer des programmes d'études européennes à l'attention d'un public international. Voilà.
Mmh. Alors, vous avez dit qu'il y a une participation de l'Union européenne, mais pourtant c'est un centre privé. Donc peut-être qu'il faut ajouter quelque chose pour comprendre comment se finance-t-il, et comme ça on comprendra aussi un peu mieux comment ces jeunes qui vont vouloir se former doivent demander une place ou un accès dans un de ces programmes, non ?
Ok, eh bien. En fait, comme vous l'avez compris, on a été fondé en 1954, et donc cette année, ça va faire 70 ans que le CIF existe. D'ailleurs, on va fêter le 70e anniversaire du CIF au mois de septembre prochain avec, on l'espère, un bon nombre de nos anciens étudiants. Et ce programme, au fil des années, a développé des programmes de niveau supérieur, et c'est grâce à ce niveau d'excellence que nous sommes une des 6 institutions d'excellence à recevoir le soutien officiel de l'Union européenne. Ça veut dire que il y a d'autres institutions du même genre, par exemple l'Institut européen de Bruges, il y en a à Florence, mais il y en a seulement 6 qui ont été sélectionnés par l'Union européenne pour être soutenus. Ça ne veut pas dire qu'on est soutenu financièrement à 100%, ça veut simplement dire que nous recevons une subvention européenne pour pouvoir exister. Voilà.
Nous parlerons aussi un peu plus sur comment les élèves du CIF font pour pouvoir accéder à ces programmes et de cette collaboration dans le paiement qui existe. Mais on voulait apprendre un peu plus d'abord sur le profil des élèves qui participent à ces formations. Est-ce que ce sont seulement des étudiants ou est-ce qu'il y a aussi des professionnels ?
Ce sont effectivement essentiellement des étudiants, mais pas que. Nous acceptons également des jeunes professionnels qui veulent parfaire une formation pour développer certaines thématiques dans leur métier. Donc ceux-là suivent les cours, par exemple, en formation professionnelle pour ce qui est des programmes de master, ou bien à titre informatif pour les programmes d'été. Mais ce n'est les jeunes professionnels sont acceptés de toute façon dans tous nos programmes, même si ce n'est pas la majorité.
Mmh, effectivement. Et vous venez de citer les masters et on disait au début que vous êtes directrice du programme d'été. Il faut savoir que ce sont deux choses différentes. Les programmes d'été,
tout
pour des questions temporelles ou strictement de temps, évidemment, sont beaucoup plus courts que les masters et s'encadrent dans autre chose. Mais comme nous disions, il y a aussi des masters. Commençons par cela. Comment est-ce qu'on peut aborder un master du CIF ? Quels critères y a-t-il pour pouvoir y accéder ? Et en quoi consiste-t-il un peu ?
Alors, le CIF, lorsqu'il a été créé, proposait uniquement un seul programme international. C'était un programme en relations internationales basiques. Au fil des années, nous nous sommes développés de plus en plus, et à l'heure actuelle, nous avons 6 ou 7 programmes, de niveau master, parce que c'est une institution privée, donc je n'ai pas le droit de dire que ce sont des masters, mais ce sont des programmes de niveau master. Et donc actuellement, on en a 6, je crois, sur qui ont tous plus ou moins une même finalité, mais qui s'orientent vers des thématiques un peu plus spécifiques pour les uns ou pour les autres. Alors il y a par exemple le master traditionnel, celui qui existe depuis toujours, c'est le programme en études européennes et en relations internationales. Et ensuite, on en a développé tout un tas d'autres. Il y en a un qui parle surtout de problèmes énergétiques, il y en a un qui parle uniquement de construction européenne, il y en a un qui parle qui développe les thématiques concernant le pourtour de la Méditerranée. Il y en a un qui va s'orienter plutôt vers la diplomatie. Voilà, et il y en a un en préparation qui s'ouvrira probablement à la prochaine rentrée universitaire et qui sera basé sur la culture européenne. Voilà, ça, ce sont pour les masters, les programmes de niveau master que nous développons, c'est-à-dire des programmes longs, comme vous l'avez dit, comme n'importe quel programme long, sur 9 mois. Hein. Il y a également un programme un peu plus spécifique qui est celui-là proposé justement pour les jeunes professionnels, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. C'est l'Executive Master, c'est un programme qui se déroule en ligne et qui se déroule pas forcément à heure fixe. On se connecte quand on veut, on prend les cours quand on veut, on répond. Et il y a des intervenants qui sont disponibles, on prend des rendez-vous, on discute avec des intervenants, etc. Et 3 ou 4 fois dans l'année, il y a des workshops dans différentes villes européennes où sont réunis les enseignants et les étudiants ou jeunes fonctionnaires de ce programme pour un face-to-face pendant tout un week-end. Ça, c'est un programme qui, habituellement, est à la portée surtout des professionnels parce que, bon, ben, pendant ce temps, ils peuvent travailler, ils peuvent poursuivre leur carrière professionnelle et prendre les cours au moment de leur choix. Ce programme-là, il se déroule en 1 année ou en 2 années, selon le cas, c'est-à-dire que certains n'ont pas le temps, préfèrent approfondir et le font en 2 années. Certains autres préfèrent ne suivre qu'une année s'ils estiment qu'ils ont acquis suffisamment de connaissances. Et le programme sur 2 années délivre le même crédit ECTS que n'importe quel programme de master, c'est-à-dire 60 crédits ECTS.
Mmh. Et donc nous avons vu que tous ces programmes sont très voués à couvrir les sujets qui intéressent principalement l'Europe et l'Union européenne actuelle.
Et l'intégration européenne dans toutes ses fonctions.
Exactement, exactement. Tout aussi bien que l'identité de non seulement de l'Europe, mais aussi des pays qui l'intègrent. Et je pense que les programmes plus courts, ceux des programmes d'été, que vous dirigez d'ailleurs, sont aussi... couvre ce genre de sujet aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns ou peut-être les derniers qui ont été ajoutés ? Car moi, par exemple, j'en ai fait 2. C'est comme ça que je connais le CIF, qui était très bien. Je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles ou s'il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés.
Alors, pour le programme d'été que je dirige depuis tellement d'années que je ne saurais même pas dire combien, j'ai essayé de le développer un peu partout. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. J'ai fait la Lettonie, la Lituanie, la Russie, l'Ukraine, la Turquie, l'Azerbaïdjan, la République tchèque, la Croatie, la Slovénie,
la Roumanie aussi,
la Roumanie bien sûr. On a fait la Macédoine du Nord, la Grèce. Donc j'essaye de développer ce programme un peu partout. C'est-à-dire que pendant 2-3 années, je vais faire des sessions dans plusieurs pays, plus ou moins les mêmes. Et puis ensuite, je cherche d'autres partenaires pour essayer de le développer ailleurs. C'est comme ça qu'on arrive à avoir mis la vitrine du CIF un peu partout dans les pays européens et même extra-européens, puisque je vous dis, on a même fait un programme en Azerbaïdjan, donc c'est l'Union européenne, on en a fait en Turquie.
En Géorgie aussi.
En Géorgie, en Russie, et voilà. Pour cette année, pour le programme 2024, j'ai lancé 4 sessions. Donc, je vais faire l'Albanie, la Géorgie, c'est un programme qui marche très très bien, la Géorgie, la Roumanie, en langue française, il faut le dire, c'est le seul programme qui est en langue française, et Prague. Au mois de septembre, on va faire une session à Prague. Voilà, donc ce programme-là, de la même façon que les programmes de niveau master, on y accueille des étudiants, mais de temps en temps, quelques jeunes professionnels y sont intéressés également. Ça n'est pas exclu. La seule chose, c'est qu'habituellement, ils préfèrent suivre les cours, mais après vivre leur vie à côté, pas vivre la vie des étudiants qui sont tous logés au même endroit, etc. Mais sinon, c'est un programme qui est ouvert, oui, à tous, et sur des thématiques d'actualité, on va dire, bon, européenne, mais surtout d'actualité. En Roumanie, cette année, on va essayer de parler des migrations. En Albanie, ils sont intéressés à ce qu'on parle de l'élargissement de comment l'Albanie va rentrer dans l'Union européenne, mais également ils sont intéressés à faire connaître la culture de leur pays. Donc on va mélanger un peu les cours académiques et les activités culturelles. On va faire beaucoup d'excursions, de visites de sites, de choses comme ça pour que les jeunes connaissent un peu mieux ce pays que probablement leur est sûrement inconnu. Voilà. En Géorgie, on parle habituellement de toutes les thématiques autour de la mer Noire. Donc, on va bien évidemment parler cette année des conflits et de comment la Géorgie se situe par rapport aux pays de cette zone. Et à Prague, nous allons parler de... Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de disputes, de l'agression contre l'Ukraine.
Ah là là, oui, c'est vrai. Ça risque d'être tendu ce débat-là. Hein.
Ça risque d'être chaud parce qu'il va y avoir le pour et le contre. Mais voilà, il faut en parler quand même.
Et vous avez mentionné pas mal de pays européens dans lesquels vous avez proposé des formations, mais ça m'a attiré l'attention que l'Espagne ne figurait pas parmi ces pays.
Non, je n'ai pas jamais eu de contact, de partenariat. Il faut que je trouve un partenaire sur place pour faire un programme d'été, parce que ça n'a aucun sens d'arriver dans un pays, de s'installer par exemple dans un hôtel avec des étudiants et de faire des cours. À ce moment-là, on les ferait chez soi. Donc il faut avoir un partenaire local, que ce soit un partenaire universitaire ou institutionnel, de façon à ce que le groupe se mélange avec un groupe de jeunes locaux pour que la culture se mélange et s'assimile des deux côtés. Voilà. Oui. Donc en Espagne, non, j'ai jamais fait d'université d'été parce que je n'ai jamais eu de contact, de partenariat intéressé.
Peut-être dans le futur, qui sait?
Pourquoi pas?
Peut-être que grâce à cette interview, il y aura un potentiel partenaire qui voudra établir le contact avec le CIF. Et nous voulons parler aussi un petit peu plus des chiffres, car il faudrait savoir quel est un peu le chiffre d'élèves historiques, celui de cette année aussi, ou même si on a déjà parlé des programmes ouverts, savoir à peu près combien de programmes ouverts. Nous avons dit qu'il y en avait 6 de master actuellement. Peut-être savoir combien de programmes d'été sont disponibles, ou sur combien de pays ou continents, continent seulement l'Europe, mais où est présent exactement le CIFE pour voilà, donner quelques chiffres à ceux qui nous écoutent.
Alors, pour donner quelques chiffres, bon, c'est difficile de remonter très loin parce que les premières années, c'était un peu... on travaillait comme tout le monde, hein, avec le papier et le crayon. Depuis plusieurs années maintenant, depuis peut-être les années 60, on va dire, on arrive à créer des statistiques et à les enregistrer. Donc, on va dire que depuis les années 60, chez nous, il y a eu plus de 120 pays qui ont été représentés. C'est-à-dire qu'il y a eu des candidats en provenance de plus de 120 pays, même s'il n'y en a eu qu'un, mais il y en a eu, qui sont passés par le CIF. On a eu des Japonais, j'ai eu une Vietnamienne en programme d'été l'été dernier. Il y a toutes sortes de pays qui ont participé. Alors la majorité, souvenez, là j'ai quelques chiffres, je vois que c'était à l'Union européenne, c'était à peu près 60% des pays représentés, bien évidemment. Mais après, on a 4% d'Asiatiques, par exemple. On a eu 9% de candidats en provenance d'Amérique. On en a eu 8% en provenance d'Afrique. À un moment donné, on avait pas mal de candidats en provenance des pays africains. Là, ça devient vraiment difficile parce que les visas ne sont plus délivrés. Moi, de mon côté, pour le programme d'été, j'ai beaucoup de demandes, peu d'élus, parce que, bon, on a beau les aider pour les démarches administratives, mais les pays à risque, on va dire, depuis quelques années, les visas ne sont pas délivrés. Et donc, c'est plus compliqué. Mais on a eu pas mal de candidats. Et puis, c'est toujours pareil, chaque fois qu'un pays nouveau rentre dans l'Union européenne, il y a toujours une flopée de nouveaux candidats de ces pays qui postulent. Hein, quand la Roumanie et la Moldavie étaient devant la porte de l'Europe, on a eu beaucoup d'étudiants roumains et moldaves. Donc c'est un peu par vague.
Oui, et aussi même en Géorgie, il y avait beaucoup de sentiments pro-européistes, malgré qu'ils ne sont pas encore dans l'Union européenne. Mais
on pouvait le voir
clairement.
Oui.
Après savoir que voilà, il y a eu des étudiants de 120 pays qui se sont inscrits aux activités du CIFE, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour comprendre l'Europe, l'Union qui l'articule et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ses frontières. Et justement, dans ce sens-là, je pense que c'est bien d'apporter à la conversation le fait que le prix que les étudiants vont payer finalement pour ce genre de programme, par exemple pour les programmes d'été, sont cofinancés, non ? C'est pas à eux de payer l'intégralité du prix que vaut ce programme, mais aussi une partie qui est apportée par l'Union européenne. Est-ce que c'est comme ça ?
C'est-à-dire... tous les programmes que nous proposons et les frais d'inscription qui y sont associés ne couvrent jamais l'intégralité du coût de la formation, c'est bien évident. Nous avons une obligation par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des bénéfices, c'est interdit. Mais il faut quand même que on arrive à faire rentrer de l'argent. On ne peut pas faire venir des étudiants à tout bout de champ sans aucune compensation financière. Ça, c'est interdit aussi. Donc oui, c'est quand même grâce à l'aide de l'Union européenne qu'on arrive à financer l'ensemble de ces cours, même si, je le rappelle, la subvention de l'Union européenne est une subvention de fonctionnement, c'est-à-dire que ça nous permet de vivre. Et après, c'est à nous de nous débrouiller pour que nos activités ne génèrent pas que du déficit, mais pas du bénéfice non plus. Donc il faut faire un équilibre entre tout ça.
Oui, et pour terminer, nous allons faire un petit regard vers le futur et je vais vous demander de nous choisir une petite initiative ou quelque chose que vous souhaiteriez réaliser d'ici l'avenir au sein du CIFE.
Ça, c'est une bonne question. Pour ce qui concerne les programmes longs du CIF, je sais que ce que nous souhaitons, c'est un développement toujours plus grand. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur ce nouveau projet de master en culture européenne. Et moi, de mon côté, sur les programmes d'été, j'essaie de me diversifier au maximum. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de trouver toujours des partenaires nouveaux dans toujours des pays nouveaux où nous ne sommes jamais produits, parce que comme je le dis, c'est un peu la vitrine du CIF que ces programmes courent. Et moi j'aimerais bien faire encore un prof des programmes, par exemple en Arménie. En ce moment c'est un peu chaud, mais dans des pays où on n'a encore jamais pu développer notre formation. Pourquoi pas en Espagne.
Voilà. J'espère que, en tout cas, cette interview aidera à diffuser tout le travail du CIFE et que ça continue de grandir. Merci beaucoup, Marie-France Perdigon, directrice du programme d'été du Centre international de formation européenne. À très bientôt.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Quiero que tu pecho sea mi cama.
Merci, chers auditeurs et auditrices, de rester à l'écoute de l'émission en français. Nous écoutons en ce moment la chanson 313, composée par Residente, qui a remporté plus de 30 Grammy en collaboration cette fois-ci avec l'espagnole Silvia Pérez Cruz, une chanson qui a été interprétée au musée du Prado ce même week-end.
C'est avec la musique de Residente et Silvia Pérez Cruz que nous vous disons à jeudi. À la prochaine.
Ciao, ciao.
porque nunca están vacíos. Están llenos de corrientes, como cuando se desborda el río. Eres una vez sola, te disparas como una pistola. Eres de los que se atrevieron, como todos los labios que mis besos conocieron. Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto. Va a darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas. Coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua. Y fui lo que seré y lo que soy, aunque no quiera, los ayeres son de hoy. Fui lo que me faltó decir, soy de los lugares que todavía quiero ir, porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa. Mejor que el tiempo nos persiga, contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe. Y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe.
No quiero que se acabe.